le lit au premier degré, c'est totalement inintéressant. Vous en apercevrez vous-même. Et il n'y a aucun livre où il y a autant de Gemara, de Talmud qui traite du sujet, et autant de Midrash qui traite de ce sujet-là. Ce sujet, c'est les rapports entre le peuple juif et Dieu. Alors, maintenant on va essayer d'expliquer chaque mot et de voir comment est-ce qu'on peut comprendre les versets. Lorsqu'on parle des mots, on doit s'attacher d'abord aux lettres des mots et ensuite à la compréhension du mot. Vous savez qu'un mot, suivant la phrase, suivant le contexte, peut avoir différents sens. En hébreu, c'est encore plus valable puisque le mot désigne toujours la chose. Il n'y a pas de mot qui soit des consensus. Il n'y a pas de mot qui ne veut rien dire. Chaque mot veut dire quelque chose. Donc on est obligé, par rapport à la racine du mot, de le comparer avec d'autres racines pour comprendre ce qu'il veut dire. Et comme ça, pour ce qui nous intéresse ici, c'est l'explication des commentateurs de la loi orale. Parce que vous savez que nous, chez nous, tout ce qui est écrit sans ce qui est oral, ça n'a aucune valeur. Ce qui est écrit, c'est pour les bibliothécaires. Ce qui est oral, c'est le sens des choses. Ce qui est intéressant, c'est comment les Chachamim ont découvert ce cantique des cantiques qui s'appelle Shir HaShirim et quelle valeur ils lui ont donné. Alors on va essayer de traduire mot par mot. Shir, Shir en hébreu, ça veut dire le chant. Si vous prenez l'étymologie du mot, c'est le même mot qu'il y a dans le mot Israël, qui Sarita. Sar, ça veut dire celui qui est élevé. Aujourd'hui, en hébreu moderne, Sar, ça veut dire. Shir, ça veut dire élever quelqu'un, lui donner une stature. Élever quelque chose, lui donner une stature. Au lieu de décrire une chose, voilà ce que j'ai vu. Je peux en faire un chien et je lui donne une autre stature. Je l'élève à un autre stade qu'une description qui ne viendrait que raccourcir la vue que j'ai des choses. Sachez qu'il y a un deuxième rendez-vous. C'est Misbah. Quelquefois on dit Shir, quelquefois on dit Misbah. Quelquefois on dit Shir Misbah et quelquefois on dit Misbah Shir. Ben pour comprendre le mot Shir, on doit aussi comprendre le mot Misbah. Vous savez que pour cantique ou chant, on n'a pas le mot Misbah. Mais regardez, vous verrez une chose qui est intéressante. Le vendredi soir, juste après Shir HaShirim, on dit Mizmor Shir, le Yom HaShabbat. Mizmor cantique, Shir chant, le Yom HaShabbat pour le jour du Shabbat. C'est un pléonasme. Mizmor Shir, Shir Mizmor. Pire que ça, tous les matins dans les Ishtaba, on dit Abocher Beshirei. Ah, Zora, c'est le même mot que Mizmor, qui veut dire quand même. Dieu, c'est celui Abocher Beshirei Zimra, qui a choisi les Shirei Zimra, les cantiques, de David Améler, du roi David. Ah, pourquoi est-ce qu'on dit Shirei Zimra, Mizmor Shir, Mizmor Shir. Ça veut dire. Sachez que le mot Mizmor vient du mot Zemer. Le mot Zemer en hébreu, ça peut vouloir dire mélodie. C'est l'anagramme du mot remez. Remez veut dire allusion. C'est pour ça que la façon dont on chante un verset, lorsqu'on lit la Torah, ça lui donne un sens. Je peux couper dans ma compilation les versets de différentes manières, le sens va changer. Il y a une interprétation de la Torah écrite qui s'appelle le remez. Les allusions qui sont dans les versets. Le mot Zemer veut dire couper, raccourcir. Ceux qui savent, dans le Gemara, dans le traité de Shabbat, dans la Mishnah, un des 39 travaux interdits le Shabbat, ça s'appelle Zomer, élaguer des arbres, couper des arbres. On emploie le même mot, c'est Zomer. Je coupe, je raccourcis. Alors maintenant, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Mizmor et qu'est-ce que ça veut dire le mot Shir? Dans chaque Shir, puisque ça n'est pas une description des choses, mais c'est le sentiment que j'ai des choses, sinon ce ne serait pas un Shir. Je mets un petit peu de moi dans la louange que j'adresse à Kadosh Baruch. J'ai deux façons d'adresser une louange à quelqu'un qui est au-dessus de moi. Ou en montrant sa grandeur, ou en montrant ma petitesse. Mizmor, c'est ce qui me met à ma hauteur à moi. Chaque fois que je loue à Kadosh Baruch Hu, chaque fois que je m'adresse à Dieu, je m'aperçois que je suis un petit peu moins que ce que je croyais être. Ou en tout cas, je suis un petit peu moins par rapport à lui. Shir, c'est le contraire. C'est que dans le fait de louer quelqu'un, il y a le propre contentement de pouvoir le louer, de pouvoir apprécier la grandeur des choses. Je décris un beau coucher du soleil. Si je le décris en termes mathématiques, que à tel degré, à telle heure, à tel méridien, ça ne s'appelle pas un champ. Mais si j'y mets un enthousiasme où je mets mes propres sentiments dedans, alors je parle de moi aussi un petit peu superlatif, c'est-à-dire je m'élève par rapport à la chose louée. Parce que je suis capable de louer cette chose-là. Le fait d'être capable d'apprécier, ça me remonte. Mais quelquefois le fait d'être capable d'apprécier, ça me descend. Ça, c'est la différence entre un mizmor et un shir. Un mizmor, ça montre l'énorme différence qui existe entre Dieu et moi. Ça met en valeur ma petitesse, ça me raccourcit. Je peux me sentir grand, dès que le bon Dieu apparaît, ça y est, Zomer, on m'a coupé, on m'a mis à un petit niveau. Ou alors shir, je suis apte à remarquer la grandeur de ce que je décris. Donc je me passerai au-dessus. On va traduire shir mizmor au yom haShabbat. Le shir, la louange de ce jour du Shabbat, ça va remettre en place dans sa place dans la création. Toi, finalement, tu n'es qu'un objet dans cette création. Mizmor, shir, le yom haShabbat. Si on est contraire, ça veut dire, en m'étant rendu compte de qui je suis et la place dans la création, je peux adresser le shir pour le yom haShabbat. Et elle est dans différence, donc vous voyez son shir mizmor ou mizmor shir. Habocher beshire zimra, qu'on dit tous les matins, ça veut dire que Dieu reçoit de l'homme un shir, et en cela même, ça remet l'homme à sa place. Si on disait mizmor shir, c'est le contraire. Du fait que j'ai compris ma place, ça remet en exergue la grandeur de Dieu par rapport à moi. Sachez que une des difficultés que représente la langue hébraïque et des spécificités, c'est que pour s'adresser à Dieu, il existe un langage qui n'existe dans aucune langue du monde. Le Rambam Maïmonide dit la spécificité de la langue hébraïque, c'est que pour décrire, pour s'adresser à Dieu, on a une multitude de mots. Prenez le Kaddish. Vous avez au moins 25 mots différents, intraduisibles en français. Il Gadal, c'est la grandeur. Kadash, la sainteté. D'accord ? Yeshua, Mevorach, Ibarra, Ishtaba, Ibarra, Roma, Itnase, Itadar, Italé, Italan. Chaque mot a une définition du rapport entre Dieu et l'homme. Vous allez dire Ibarra, béni, Ishtaba, loué, Itbar, ber veut dire glorifié, Itroma, élevé. Itnase, presque comme élevé. Itada, Itale, Italal. Chaque mot est étudié. De chaque mot, on doit apprendre un rapport entre l'homme et Dieu. Ça veut donc dire que la spécificité de la langue hébraïque est encore une deuxième spécificité du Rambam. Pourquoi est-ce que l'hébreu s'appelle la langue sainte, Lachon à Kodesh? Et pour deux raisons. D'abord, c'est par cette langue-là que Dieu a créé le monde. Vayomer, ce que Dieu a parlé. C'est ce que nous disons tout le matin, Baruch, chez Amar, Vayaola. La parole, c'est la création. Et c'est de cette langue dont il s'agit. Deuxièmement, parce que toute chose qui se rapproche de la petitesse de l'homme, que ce soit dans son corps, ou dans ses fonctions, dans ce qui le rapproche de la bestialité, n'a pas de mot hébraïque. On a vu employer des périphrases. Ça s'appelle le lachon kodesh. Il est sale, parce qu'en français on dirait des mots sales, il n'y en a pas. Sale, pas dans le sens sale, pas propre, mais dans le sens petit, bestial. C'est pour ça que Maïmonide dit, c'est la spécificité du lachon kodesh. Tout doucement, on va comprendre en quoi c'est le langage qui fait le rapport entre l'homme et Dieu. Parce que toute la vie d'un homme, c'est quelle est sa place dans la création voulue par le Créateur. C'est-à-dire que toute la vie, c'est un rapport entre l'homme et Dieu. Le fait que la langue hébraïque, que l'hébreu, ait pour définir ses rapports, définir ses relations, et un tel nombre de mots, ça montre que les rapports et les attitudes sont infinis. Donc on va commencer ce qui vous intéresse ici. Ça c'était une petite parenthèse. Shir, un chant. Donc on a dit, c'est pas mise mort, c'est marqué ici. C'est Shir. Shir ça veut dire ce que je peux voir de la grandeur de Dieu. Shir, Ashirim. Ce qui m'élève dans ce chant-là, c'est le rapport que j'ai avec cette grandeur. Cantique, décantique. Ça veut dire, on dirait chez nous, le plus. Le plus du plus. Le maximum qu'on a réussi à faire. À cher l'Ishlomo, ou qui appartient, ou qui est adressé, d'après ce qu'on a dit du rapport entre l'homme et Dieu, ça veut dire l'Ishlomo à Dieu. La Gemara a dit que pourquoi est-ce que Dieu s'appelle Shlomo? Parce que Dieu s'appelle Meler, c'est le roi, chez Shalom, Shalom. Vous savez qu'il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Shabbat au début, que les Chachamim Bekoshi Itiru le Hagid Shalom. Bekoshi. C'est avec difficulté qu'ils ont permis que dans la langue usuelle en hébreu, on s'adresse à l'autre en disant Shalom. Pourquoi? Parce qu'on ramène un verset où il est écrit que Dieu est décrit comment? Hachem Shalom. Ça veut dire que Shalom, c'est non seulement des attributs, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu. Vous savez que nous, on dit justement que Dieu n'a pas de nom, ce qu'on appelle Hachem, le nom. C'est-à-dire qu'on n'a pas de nom. Alors on appelle le nom. Justement parce qu'on ne veut pas donner le nom. Si quelqu'un, on n'a pas réussi à lui donner un nom, mais il faut qu'il s'adresse à lui, alors on dit le nom. Parce qu'on n'a pas de nom. On ne va pas l'appeler François, Gérard ou Patrick, puisque on ne veut pas lui donner le nom, on appelle ça le nom, Hachem. Il en reste que si on voit ce qu'on appelle nous le nom de Dieu, il ne veut rien dire. C'est Yud, et Vav, et après. C'est simplement la contraction au présent, au passé et au futur du mot Haya, Ove, qui. Ça veut dire celui qui a été, celui qui est, celui qui sera. De nouveau, il n'y a pas de monde. Qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu? Dire un des noms de Dieu, c'est Shalom. C'est ce qu'on appelle un attribut. Il y a un autre nom de Dieu, Rahum, Hanun. Lorsque je détermine une façon de se conduire de Dieu envers l'homme, et que je la constitue en ce qu'on appelle en attribut, ça veut dire que c'est une attitude que j'arrive à déterminer en tant que système, je l'appelle nom. C'est-à-dire le nom de Dieu, c'est ce que j'arrive à percevoir. De sa façon de diriger le monde. Une de ses façons, Melerche Shalom Shalom, c'est à lui qu'appartient la paix. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Savoir deux choses. D'abord qu'en hébreu, le mot shalom ne veut pas dire la paix. Le mot shalom vient du mot shalem. Le mot shalem veut dire entier. Tous les jours dans Birkat Hamazon, on dit un verset dans Yov, de Job, Ose shalom, bim romav, ça veut dire celui qui fait la paix dans les cieux. La paix dans les cieux, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a peut-être des éclipses, mais vous n'avez jamais vu le soleil et la lune se cogner, ni aucune étoile rentrer dans ce qui appartient au cycle de l'autre époque. On appelle ça Ose Shalom Yomroma, c'est-à-dire que la création, elle obéit à des lois qui marchent entre elles, et chacune des lois a sa place propre et n'est jamais mise en cause par une autre loi. Shalem, ça veut dire chacun est à sa place et entier dans son système. De là est venu qu'en hébreu, par extension, on a dit la paix c'est quoi? Chacun est à sa place. Shalom. L'étymologie du mot shalom, ça veut dire chacun étant à sa place et non pas la paix. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on parle de shalom, de paix, et qu'on dit que c'est un attribut d'Akadosh Baruch Hu, c'est un attribut de Dieu. Le mot shalem ou shalom, si vous transposez les lettres, parce qu'on va toujours faire des mots pour voir d'où vient la racine ou comment s'explique la racine, vous trouverez toujours le mot machal. Moshel veut dire gouverner. Ça veut dire culte. Être à sa place, c'est être maître de sa place. C'est pas être relégué à sa place. Ose shalom imromav, les lois de la nature, elles ont chacun leur système, et elles gouvernent chacun, chacune, une partie de la nature, qui fait que elles sont moshel, elles sont maîtres. De là, vous pouvez comprendre une gemara dans le traité de Brachot, où la gemara dit, tout celui qui ne dit pas shalom à l'autre, je salue quelqu'un, il ne me répond pas shalom, que ilu gozlo minachalat avotav, c'est comme s'il avait volé l'autre, minachalat avotav, de l'héritage de ses ancêtres. C'est-à-dire quoi? Je ne lui reconnais pas sa place. En disant shalom à quelqu'un, je le reconnais dans son entité, et je reconnais dans sa même shalom, dans le fait qu'il est gouvernant sur son propre territoire. C'est ça le mot shalom. Donc vous voyez bien que paix, c'est par extension. En disant à quelqu'un, t'es bien là où tu es, je te respecte dans tes frontières, et je te donne une place dans ce qui t'appartient, par extension, on ne va pas faire la guerre. Parce que je reconnais la personne en étant Moshel dans ce qui est à elle. Donc c'est pour ça que vous comprenez que chaque fois qu'on dit le mot shalom, ça appartiendra rarement à l'homme, parce que l'homme ne possède pas de shalom. On va essayer d'expliquer pourquoi. Tout le monde connaît le Midrash, où il est écrit qu'au moment où Dieu a créé l'homme, les malachim, les anges, se sont mis kitot, kitot, rabot, rabot. On va essayer de traduire. Kitot se sont mis, on dirait en classe aujourd'hui, Chaburot, chaburot, chaver, par affinité, en groupe. Les anges se sont mis en groupe. Il y en a qui ont dit, c'est bien que l'homme soit créé, il y en a qui ont dit, il ne faut pas que l'homme soit créé. Qui c'est qui a dit que l'homme doit être créé? Chesed, la bonté, c'est-à-dire les anges qui représentaient le groupe qui s'appelle bonté, a dit l'homme doit être créé parce qu'il est gomel chassé, il est capable de bonté. Emet, le groupe qui représentait vérité, il a dit à Libari, il ne faut pas le créer parce que Koulo Dover Shkari, l'homme c'est un menteur, il n'a qu'une approximation très vague de la vérité. Ok. Shalom Amar, le shalom a dit à Libari, il ne faut pas le créer. Chez Koulo Ktaton, il fait que se bagarre. D'accord. Tzedek Amar, Tzedek, la justice a dit, Ibaré, il faut le créer. Pourquoi? Chez Koulot, c'est d'accord. Parce que, il sait rendre la justice, il sait faire rendre à quelqu'un son dû. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a une seule chose qui a troublé le bon Dieu. C'est le problème de la vérité. Il y a marqué Ishlich Emet Alz. Qu'est-ce que le bon Dieu a fait? Il a jeté la vérité par terre. On amène la vérité chez Neymar, comme il dit, Emet la vérité, mais Eretz Tzmach, elle viendra de la terre. On a toujours dit que ce n'est pas péjoratif. Jeter la vérité par terre, c'est-à-dire que c'est l'homme qui devient celui qui va définir la vérité. C'est pas qu'on a jeté la vérité par terre. C'est que Emet Meretz Tzmach, la vérité maintenant c'est à l'homme de décider ce qu'il va être ou pas. On va lui donner la Torah. Selon son interprétation, ce qui est vrai, ce sera vrai, ce qui est faux. Si tu crois que tu vas découvrir dans la Torah la vérité qui est celle de Dieu, ce n'est pas la peine d'essayer de dire. Parce que ça, tu n'y arrives pas. Mais on va te donner à toi, voix au chapitre, pour définir la vérité. C'est la raison pour laquelle la Torah dit que Achare Rabin Vahamit, lorsqu'il y a un conflit entre les Chachamim, pour savoir quelle est l'interprétation qui est juste, on va d'après la majorité. La majorité définira ce qui s'appelle la vérité. La vérité devient relative. C'est vrai que il y a une certaine dégénérescence de cette vérité. C'est pour ça qu'il y a marqué Ishlich, il l'a jeté. Mais pour l'homme, c'est mieux parce que c'est lui maintenant qui possède la vérité. Quand on dit les anges sont venus, Chaburot, Chaburot, Kitot, Kitot, on n'est pas obligé d'imaginer qu'il y a des anges avec des ailes qui sont venus, ils sont venus à côté, de côté. Un ange, ça veut dire que c'est l'idée. C'est l'idée qui est vraie. Mais là, il y a un problème. Le shalom. Qu'est-ce qu'on en a fait, monsieur? Ça reste que Kulo Dover, que Kulo Ktadot. L'homme, c'est quelqu'un qui se dit. Il n'est pas capable de shalom. Là-dessus, on n'a pas vu que c'est devenu l'attribut de l'homme. Ça reste un attribut de Dieu. Et là, on peut comprendre. Chaque fois que vous trouverez le mot shalom, on ne parle pas de roi Salomon. On parle de Dieu. Meler, cher shalom. Le shalom, ça lui appartient. Ça ne nous appartient pas. Nous, on n'est pas capable de shalom. Mais il faut relativiser. On peut être capable de petit shalom. On parle ici de shalom absolu. Ça veut dire d'avoir la possibilité de reconnaître l'autre dans sa vérité. Pour nous, c'est très difficile. Je sais pourquoi. Parce que chaque fois que je veux essayer de voir l'autre, je me vois d'abord, puisque je suis celui qui voit. Et je ne peux pas ignorer qui voit. Donc, par définition, je ne peux pas donner à l'autre la place qui lui revient, puisque ce sera toujours par l'intermédiaire de quelque chose de tout à fait subjectif, qui est mon idée. Donc il m'est difficile, moi, de donner la place exacte qui convient à quelqu'un. C'est tellement difficile que non seulement vis-à-vis des adversaires, c'est difficile, mais vis-à-vis de ses proches, c'est difficile aussi. C'est difficile pour un père de donner la place que son fils mérite. C'est difficile pour un fils de donner la place que son père mérite. Pourquoi? Parce que il reste que c'est mon fils. Il reste que c'est mon père. Puisque c'est le mien, on est toujours obligé de passer par moi. Le seul qui n'est jamais obligé de passer par lui, c'est Dieu. Parce que ce moi-là, il n'existe pas chez lui. Dieu n'a rien à protéger. Il n'est pas existentiel dans ce que nous, on appelle l'existence. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est yachid, il est salut. Il n'a pas à tenir compte de quelque chose d'extérieur. Mais nous, on doit toujours tenir compte de l'extérieur, on est toujours agressé. Ou on est toujours, au contraire, obligé d'agresser. Parce que on n'est pas yachid, on n'est pas seul. Finalement, on est une espèce. Finalement, on fait partie d'un tout. Dieu ne fait partie d'aucun tout. C'est pour ça que Echad, lorsqu'on dit qu'il est seul, ça ne veut pas dire simplement qu'il est seul, mais ça veut dire aussi qu'il est vérité. Donc sa vérité, la nôtre, elle n'a aucun rapport. Lorsqu'on dit que Hachem, il est Emet, il est vrai, et lorsque nous nous disons ce que nous disons, c'est Emet, les deux mots sont les mêmes mots, mais ils n'ont aucun rapport. Lorsqu'on dit que Hachem est Emet, ça veut dire, c'est l'étalon de la vérité. Lorsque nous nous disons ce que je dis, c'est Emet, c'est toujours par rapport à l'étalon qui est extérieur à moi. Donc les deux deux mots n'ont jamais rien à voir. Pas les confondre. Un, c'est une émette qui est absolue, parce qu'il n'y a pas de personne. Il y a un tout. Et l'autre, c'est un émette qui est relatif, parce que j'ai des ustensiles pour comparer. Et est-ce que ce sont mes ustensiles, avec mon approximation, et avec le fait que je ne peux pas ignorer que je sois. Donc, le problème du shalom, il est que c'est à moi de donner le shalom. Donc je suis toujours dedans. Donc l'autre, il y manquera toujours le fait que quoi ? Qu'il ait besoin de moi pour le reconnaître dans son shalom. Donc il n'aura toujours jamais de vrai shalom. Parce que c'est moi qui est obligé de le reconnaître. Et moi, je ne peux pas faire fi de ce que je suis. Lui ne peut pas faire fi de ce que moi je suis en fait. Donc le shalom ne sera jamais vrai. Le seul qui possède le vrai shalom, c'est le seul qui peut mettre les choses à leur vraie place. Moi, je peux reconstituer le shalom. Quelqu'un lui manque quelque chose, je vais lui donner. Je vais essayer de lui donner une place. Il sera toujours subjectif. On va aller plus loin encore. Vous savez qu'il y a une gemara dans le traité de Shabbat, un monsieur qui s'appelait Hillel, on connaît l'histoire de Hillel. Il y a un guerre. Un monsieur qui voulait se convertir est venu chez lui, il a dit, voilà, donne-moi une phrase lapide et elle veut se convertir, qu'on lui dise toute la Torah sur un pied. Ça veut dire une phrase qui résume toute la Torah. Il a dit une chose bizarre, il a dit quoi ? Maï de Sanilar, le Chavrach Lotan. Ce que tu n'aimes pas pour toi, ne le fais pas. Ok. Moi, ça m'a toujours choqué. Parce que si on va aller très loin, ça c'est la philosophie d'une bande de loupards de banlieue. Tu veux pas qu'on t'attaque, tu attaques pas. Mais la morale, c'est pas ça. L'idéal, c'est pas ça. Ça, c'est simplement une protection. Je veux pas qu'on t'attaque, n'attaque pas. Bon, tu fais un espèce de contrat social qui fait que tu vivras en paix, les autres en paix. Ça, c'est une morale de bas étage, une morale. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il est bien pour dire ça. Il est possible qu'il ait voulu dire tout à fait autre chose. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Lorsque quelqu'un s'appauvrit, et qu'il est obligé de tendre la main, la mitzvah de tzedaka, l'aide qu'on doit lui apporter, tzedaka veut dire aussi justice, c'est de le remettre à flot tel qu'il était avant. Ça va très loin, puisque il aura le droit de demander la tzedaka jusqu'à ce qu'il arrive au même statut qu'il était avant. Imaginez-vous, Paul Reichmann, combien de générations il a le droit d'aller demander la tzedaka? Bon, il n'est pas pauvre, mais imaginons qu'il soit de niveau. 25 milliards de dollars. Ça, c'est la mitzvah. Pire que ça, Bagma a dit une chose qui est inquiétante. Vous savez qu'à l'époque, ils avaient l'habitude, parce qu'ils allaient dans les souks, et que quelqu'un qui était considéré un petit peu d'une façon un peu élevée dans sa classe sociale, il avait un serviteur pour faire de la place. Lorsqu'il y avait, pour pas qu'il se frotte à la populace. Aujourd'hui, on va en voiture. Ben, moi, elle raconte que celui qui avait Evel Ratz le Fanab, il avait un serviteur pour courir devant lui. S'il s'est appauvri, toi non seulement tu dois le remettre dans sa situation antérieure, mais tu dois lui trouver de nouveau un serviteur pour. Et il allait un jour, quelqu'un est venu chez lui. Il a dit, voilà, je suis devenu pauvre, il l'a aidé, mais à la fin, l'autre lui a dit, mais tu sais, il me manque le Eved Ratz le Fanav, il me manque le serviteur qui court devant moi. Alors il a dit, ben, c'est moi. Et il est allé avec lui au marché, et il courait devant lui. C'est regarder jusqu'où peut arriver la bêtise humaine, qu'un homme, il y a Hillel qui est devant lui, qui lui ouvre le passage. Il est tellement préoccupé par sa situation, qu'il ne se rend pas compte du ridicule que ce soit Hillel qui lui ouvre le passage à lui. Alors qu'il aurait été normal que celui qui ouvre le passage à Hillel. C'est comme ça, le Dalach, elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Parce qu'il n'a fait que traduire une chose qui est presque impossible, et qui est celle-ci. Le Ahavta, tu aimeras, le Reacha, ton prochain, Kamocha, comme toi. Vous savez que le Rambam Nachman, il dit c'est impossible. C'est une des exagérations de la Torah. La Torah, elle a exagéré. On doit s'approcher le plus possible, mais Kamocha, tu n'y arriveras jamais. C'est une des mitzvot où on ne pourra jamais dire qu'on l'a fait entièrement. Donc si tu arrives à peu près, t'as gagné. Bon. Qu'est-ce que veut dire cette mitzvot ? Ça veut dire ceci. C'est vrai que je suis le propriétaire chez moi, je suis le mon cher, j'ai droit au chalom, j'ai plein de droits. L'autre a les mêmes droits que moi. Mais à partir du moment où je vais le restituer lui dans ses droits, il est tout à fait normal que moi je pense que c'est vrai que tu avais une Rolls Royce avant, tu avais une Bentley, tu avais tout ce que tu voulais. Mais aujourd'hui, mon vieux, trouve il va, c'est déjà pas mal si le peuple juif t'achète deux choses. C'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. Non seulement ça, vous allez chez l'assistante sociale. Le principal du travail, c'est de faire accepter au chômeur sa condition. Il ne rêve plus. La société doit quelque chose, mais elle ne te doit pas ce que tu possédais avant. D'accord. Attends, elle ne pense pas comme ça. Elle pense « Vavta l'oreacha kamocha ». Tu roules comment toi? Tu roules pas en deux jours. Ne propose pas de deux jours. Kamocha. Ma de Sadilar, ce que toi tu n'aimes pas. Là deux jours, ce que tu n'as pas. Le chavrach l'otavid, lorsque tu le donnes à l'autre, tu ne le donnes pas. De dire il y en a toujours assez pour l'autre, puisqu'on lui donne, ça ne se passe pas. Tu sais ce qu'a besoin l'autre? Tu ne sais pas. Mais tu vois ce que tu as besoin. Exactement ce que tu as besoin, l'autre en a besoin. C'est ce qu'il a dit. Il est venu, c'est pas qu'il a dit au gars qui est en train de jouer du flipper. Tu sais, si tu veux t'en sortir dans la vie, ne fais jamais aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pas ça du tout. Il a dit, de la même façon que tu te mesures, tu mesures tes droits et tes besoins, tu dois mesurer les droits et les besoins de l'autre. C'est ça ce qu'on appelle la tzedaka. Vahavta, le re'acha kamocha. Ahava, le lien qui doit exister entre toi et l'autre, c'est que tu le juges à la même aune que tu te juges. Ce que tu n'aimes pas, ne dis pas que c'est bon pour l'autre. Toi, tu n'aimerais pas manger un plat de nœud tous les jours. Alors, il est normal qu'au resto du cœur, il n'y ait pas un plat de nœud tous les jours. Et à partir du moment où tu dis, mais tu sais, pour le SDF, c'est déjà bien un plat de nœud. C'est que tu n'as rien compris au Kamocha. Le seul qui possède cette faculté de remettre l'autre dans ses frontières de la même façon que je suis dans les miennes, c'est un calme. Parce que moi, lorsque je donne quelque chose, je me prive toujours de quelque chose. Alors j'essaye de faire des vases communicants. Je vais te priver de la moitié, toi tu vas à la moitié, et puis tout le monde va être content. Chez le bon Dieu, il n'y a pas ça. À Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne, c'est pas qu'il y a quelque chose de fini duquel il prend, et il n'aura pas pour demain. Il n'y a pas cette notion. La notion du Kamocha, du comme toi, elle est entière. C'est pour ça que je dis Meler Shea Shalom Shelo. Celui dont l'attribut même, c'est le Shalom, c'est de reconnaître l'autre tel qu'il est exactement, ça peut être Kamocha. Moi, je peux m'en approcher à cause de cette mitzvah d'Avta L'Oreacha Kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je peux y arriver. Ça va dans le sens inverse aussi. Dans le sens inverse aussi, ça veut dire que les gens ont une image d'eux-mêmes. Nous, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de leur donner l'image de nous qui est bien meilleure que ce qu'ils ont d'eux-mêmes. Sinon, on n'a jamais rien gagné. On essaie tous de faire ça. Je vais vous raconter ça, vous allez comprendre. Un jour, il y a un homme qui est allé chez le Rav de Ponovus, c'était notre Shiva, à la Shiva, il y a 25 ans. C'est déjà Géa. Il est venu chez lui, il lui a dit, voilà, je demande l'autorisation de donner le guet à ma femme. Je vais divorcer. lui ai dit pourquoi. Il lui a dit moi je travaille, je gagne ma part d'assa à la sueur de mon front. Je rentre à la maison, ni la cuisine est faite, ni le ménage est fait, il n'y a rien du tout. Je ne peux pas tout faire. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse au moins une partie. Avec celle-ci, j'ai rien. Il n'y a pas de rolamazé. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours vivre dans le rolamaba. Et alors, une fois on prend mouchoir pour s'asseoir sur le fauteuil, et qu'on est obligé de faire ça chez soi tout le temps, on n'en peut plus. Alors là, le premier, j'ai dit, oui, je te comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu vas venir avec ta femme, ce soir, chez moi la maison. Et puis on va arranger ça. On va lui expliquer que c'est pas vivable, c'est normal. C'est un droit, c'est un chacun. Le soir avant que les gens arrivent, il a pris sa femme. Sa femme est venue de Suisse, parce que vous voyez un peu le genre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, chez les Suisses, vous ne verrez jamais un gramme de poussière. Il y a un meuble qui n'est pas exactement dans l'axe. Alors il lui a dit, écoute, tu vas descendre à l'échelle dans la cuisine, tu prends les casseroles sales, les assiettes sales, et tu les mets sur les fauteuils. Il a fait ce que son mari veut. Lorsque le couple est rentré, il a reçu en bonne chemise. Et vous m'excusez que je vous reçois comme ça. Et ma femme est fatiguée, elle n'a pas eu le temps de me replacer dans votre chambre. Les amener au salon. Elle dit, vous excusez, mais enlevez les assiettes sales pour vous asseoir. Ma femme est déjà toute contente, elle rigolait. Le mari, il était déjà là comme ça. Alors, là, le premier s'est assis. Il avait un balai, une table. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non. C'est gêné de parler. Elle dit, tu te gênes, mais c'est pas grave. On va faire ça convivialement. Je vais amener ma femme. Comme ça, tu te gêneras moins. La femme est arrivée et il s'est gêné encore plus. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça de chez moi? Il va poser juste une question. Il dira, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Alors, il lui a dit, oui, je suis heureux. Le lendemain, notre premier doit faire plaisir. Il a dit, je ne vais pas te mentir. C'est pas comme ça chez moi. Mais hier, tu pensais que ça pouvait l'être, qu'on pouvait vivre comme ça. Alors, puisque tu l'as envisagé, maintenant tu vas essayer de le faire. Vous comprenez ? Lorsqu'il a vu ça, il s'est dit, ben, le rôle de Ponovige, ça marche pour lui. Donc, tu as pu intégrer ça dans tes critères. C'est vrai que c'était pour moi. Mais maintenant, ça va être pour toi. Ce qu'on arrive à intégrer des autres, on va pouvoir intégrer pour soi. Vavta le Réacha Kamor. Ça, c'est ce qu'on appelle le vrai shalom. Que chacun est à sa place, ça veut dire que je peux restituer la place de l'autre par rapport à la place que je veux avoir, moi. Donc ça va jusqu'à pouvoir donner une image la plus terrible de soi-même pour que l'autre puisse rectifier son image. Il est possible que ça aille encore plus loin. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la place à l'autre, on y perd toujours un peu. Il est difficile de trouver que chacun ait sa place sans qu'il y ait un petit renoncement de la part de nous. C'est inexorable à la création. Vous savez que selon une grande théorie de la Kabbalah, le fait que Dieu ait créé le monde et qu'il nous ait donné une possibilité de le concevoir, c'est qu'il s'est fait tout petit. Parce que tel que j'aurai toujours l'image de Dieu, ce sera toujours à des millions d'années-lumière de ce qu'il est. Donc lui aussi s'est fait petit pour que je puisse exister. Parce que s'il s'était fait à peu près au rang de ce qu'il est, je ne pourrais pas avoir de place. Parce que je ne peux pas exister quand quelque chose détruit tout sur son passage, parce qu'il est unique. Donc il s'est mis dans un coin et maintenant on est deux. C'est ce que certains philosophes appellent le « je », le « tu ». Pour pouvoir exister, pour pouvoir donner à l'autre la possibilité d'exister, on est obligé de délimiter les frontières. Donc on a toujours renoncé à quelque chose. Shalom, c'est ça. Si tu crois que tu peux faire le shalom sans renoncer, ça ne veut rien dire, puisque l'autre voudra tout. Toi, tu veux tout. Donc tu es obligé de donner à l'autre une image de toi qui va être plus petit, pour que lui puisse prendre sa place. Si je vais en consultation chez un avocat, et que chaque fois que j'ouvre la bouche, il est toujours plus malin que moi, il fait toujours ce que lui veut, je suis obligé de changer d'avocat parce qu'on n'est pas deux. Ça devient injuste, ça devient pas accepter un avocat. Je peux collaborer avec quelqu'un, je peux avoir besoin de quelqu'un s'il me laisse ma place. Mais s'il me prend toute la place, je suis fichu. L'existence même, elle n'est possible que si l'autre me la laisse. Les gens croient que pour ça, c'est faire un effort terrible et renoncer à ce qu'on a. Mais en vérité, puisque l'autre doit exister, ça tu l'avais pas. C'est une illusion que tu croyais avoir parce que tu croyais être seul. Mais finalement, tu l'avais jamais. Donc il n'y a aucun renoncement à ça. Vous comprenez? C'est simplement que dans notre imagination, on pense qu'on a plein de pouvoir, plein de possibilités. Alors que ce n'est pas vrai, puisqu'on a besoin de nous. Même dans les petites choses de la vie. Tu as besoin d'un tailleur, sinon tu n'auras pas de costume. Donc il y a une chose que tu dois mettre que tu ne sais pas faire. Si un homme tous les matins se dit, je ne sais pas faire le costume, je ne sais pas faire les chaussures, je ne sais pas faire, voilà, je ne sais pas comment faire quoi, je ne sais pas faire les livres, je ne sais pas faire tout. Il va commencer à avoir une idée de lui-même qui n'est pas exactement la même que celle qu'il a lorsqu'il prend sa mallette et il s'en va conquérant pour essayer de faire accepter ses droits. Parce que finalement, ta place, tu l'as déjà déterminée, elle est minuscule. Tu as besoin, hein. Mais d'un autre côté, c'est aussi une grandeur. C'est que Adam Arishon, le premier homme, il était tout seul dans le Gan Eden. S'il voulait s'habiller, il était obligé de faire appel au bon Dieu. Pourquoi? Parce que il ne savait pas comment faire. Moi, il suffit que je téléphone. Maintenant, on fait même des achats par télé. Pour vous lire. Ça, c'est une puissance aussi. C'est pas seulement une limite, c'est aussi une possibilité. Mais c'est seulement grâce à l'autre. Ça veut dire que lorsque quelqu'un veut savoir qu'est-ce que c'est que le shalom, il est obligé de faire toute la relativité qui existe dans la position qu'il arrive à conquérir, qui est une position énorme, puisque il a la moitié du monde à sa disposition. Moi, un jour, sur une chemise, j'ai vu Madim Korea. Je me suis dit, je savais que les Arabes travaillaient pour moi. Je savais qu'il n'y a pas de chance. Mais même les Coréens travaillent pour moi, ça se fait. Et maintenant, même les Coréens travaillent pour moi. C'est pas mal. De l'autre côté, ce que le Coréen sait faire, tu peux pas le faire. Ça veut dire que la délimitation de ces rapports-là, c'est ce qui fait la place exactement. Chez Dieu, ça n'existe pas. Il peut tout me donner, il aura toujours tout. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Melech HaShalom. Il n'y a pas de limite. Mon pouvoir n'a rien à voir avec les limites du pouvoir des autres. Mon pouvoir n'a rien à voir avec mes propres limites. Parce que souvent, un pouvoir m'est donné, parce que j'ai une incapacité de faire moi-même, donc je suis obligé d'avoir ce pouvoir-là. Et c'est un faux pouvoir. La preuve. Il a acheté une Mercedes, il ne sait pas la réparer. Il est fichu. Il a une panne. Quoi, il a l'air. T'as l'argent pour t'acheter une Mercedes, mais pas assez pour aller prendre des cours de mécanique, pour savoir comment t'en sortir. Quand tu peux le faire. Ton propre pouvoir te donne la limite de ce pouvoir-là. Donc finalement, tu es affilié au club Mercedes. C'est tout. Bien, c'est déjà pas mal, il y en a qui sont affiliés au club Honda. Bon, mais quand même, on est d'accord, ça c'est la définition du shalom. Donc lorsqu'on dit Asher Lishlomo, ça veut dire Shira Shirim, comment l'homme peut percevoir de ce qui existe chez Akadosh Baruch Hu, dont je vais le décrire puisqu'il s'agit de rapports entre l'homme, ce qu'on a dit le shir, c'est l'investissement de l'homme dans ce qu'il arrive à percevoir de l'autre. ces rapports-là, je vais déterminer Dieu, je ne vais pas dire Hachem, je ne vais pas dire Achum, je ne vais pas dire Tsevaot, je ne vais pas dire plein de choses, je suis obligé de dire Shlomo. Parce que la détermination de ces rapports-là, ça passe par le fait que Dieu s'appelle Shlomo. Mais l'air. Ça, c'est une constance de l'hébreu, vous verrez toujours. Que les deux mots, plutôt le même mot par rapport à l'homme et par rapport à Dieu, ça prend une connotation totalement différente. Et pourtant, les mots sont les mêmes. Pour nous, la paix, ça nous suffit. J'ai la paix, ça va, c'est bien. C'est pas la qualité de la vie d'avoir la paix. C'est pas ça. C'est déjà quelque chose. On va pas aller plus loin. On a un peu de shalom. Lorsque quelqu'un meurt, on lui dit l'air de shalom. C'est-à-dire qu'il n'est plus de compte à rendre. Tout est lisse. Tout a été fait. On apprend d'Abraham. Il a dit l'air de shalom, imavotecha. Ça veut dire que tu as accompli ta vie. Tu es à ta place. De shalom. C'est pas qu'on est obligé de régler les comptes après. C'est pas qu'après on est obligé de rectifier le tir, c'est pas qu'après qu'on est obligé de comprendre les choses. Tout a été fait, tout a été montré. Donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, dans la prière, on vient l'enterrement, l'air de shalom. Ça veut dire que tu vas aller vers l'endroit où tu auras ta vraie place, celle que tu es arrivé à conquérir ici, qu'elle soit entière. Entière, ça veut dire qu'il n'y ait pas de rectification à faire. Les rectifications étant ce que nous appelons le Geinam, ou Kafakila, il y a plein de notions. Sont des leçons de rectification par rapport à tout ce qu'on a pu abîmer dans ce monde-ci. On est d'accord ? On continue. Deuxième verset. Yishakeni mine shikot piou. Yishakeni. On va traduire chaque mot. Yishakeni, ça veut dire embrasse-moi. Mine shikot. Des baisers, Neshika, c'est le même mot que Yishaken. Mi Neshikot Biou de ta bouche, de sa bouche. Kitovim, car son meilleur, Dodecha, tes bienfaits, Miyaim, que le vin. Je vous disais que si on traduit les versets tels qu'ils sont traduits, ça n'a aucun sens ni aucun intérêt. Il vaut mieux aller voir le programme télé. Yishakeni min shikot piou. On va retourner, recommencer. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Kitovim, car son meilleur, Dodecha, tes bienfaits. On ne parle plus de Dieu à la troisième personne. Miyaim que le vin. On est un peu coincé. Alors on va céder de Rachid pour traduire. Voilà ce que moi Rachid traduit. Rachid nous dit que la première évocation du roi Salomon, lorsqu'il parle de Dieu, c'est la première fois que l'homme a pu voir une manifestation divine. Vous savez que la première fois que le peuple juif, à la sortie d'Égypte, a vu une manifestation divine, c'est le mont Sinaï. Tout le reste, c'est des détours. Les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la mer rouge, tout ça c'est pour situer le personnage, on dirait. Pour que Dieu puisse nous dire, Anochi, c'est moi, Asherot Zetira qui t'ai fait sortir. Sors qui je suis, voilà. D'abord quelqu'un m'ouvre la porte, et ensuite dit, c'est moi qui ai ouvert la porte. Mais la première fois et la seule fois où le peuple juif a pu apercevoir quelque chose de la divinité, c'est le mont Sinaï. Ça, c'est le premier rapport qui existe entre Dieu et le peuple juif. Yishakin, s'il pouvait encore m'embrasser, Rachid dit, tout le monde sait que les deux premiers commandements ont été donnés par Dieu lui-même. C'est pour ça qu'ils sont la première personne. Anochi, première personne. Le deuxième, Loyelcha Elohim Acherim, Alpanaï, devant moi. Après, toujours c'est Moïse qui parle et qui parle de Dieu. Les deux premiers commandements ont été donnés par Dieu. Les autres, par Moshe Rabbeinu. La Torah elle-même nous dit pourquoi. Parce que les enfants d'Israël ont dit, ça suffit. Daberata v'nishma, c'est toi qui nous diras le reste. Nous, on ne veut plus entendre de la bouche d'un cadavre. C'est-à-dire que le rapport entre l'homme et Dieu, le rapport direct, il est impossible. Ça suffit. Sachez que c'est dans ce midrash, à propos de ce verset, qu'on apprend que la Torah orale nous dit qu'il y a Tar Yag Mitzvot, 613 Mitzvot. Le midrash est le confirme en disant, dans le cinquième livre de la Torah de Varim, il est écrit Torah Tziva Lanu Moshe. La Torah, c'est Moshe qui nous l'a ordonné. Torah, la valeur numérique, c'est 611. Torah Tziva Lanu Moshe. 611 mitzvot nous a donné Moshe. Ce qui marche avec le compte qui est écrit dans la Gemara, dans le traité de Makot, que Taria et Mitzot, 613 Mitzot ont été donnés, 2 ont été donnés de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, et 611 de Moshe Rabbeinu. Tav, Vav, Resh, Hey, c'est 611. Tariag, Tav, Resh, Yugivel, 613. C'est ici dans le livre, dans le Cherchir, etc. Torah veut dire enseignement. C'est-à-dire qu'il y a deux enseignements que Dieu a enseignés. Font partie des 613 de l'intérieur. Le peuple juif s'adresse à Dieu et lui dit Yishakini Michikoku. Si c'était possible de retrouver cet instant-là où j'ai bénéficié de ce qui vient de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on appelle les baisers de sa bouche. Le contact entre Dieu et l'homme. Après, c'est passé par Moshe Rabbeinu. Avant, c'était. Maintenant, allons voir la fin du verset. Et là, c'est encore plus difficile. Kitovim, car son meilleur, Dodecha. Dodecha vient du mot Dod, qui veut dire proximité. Dod, c'est des bienfaits, l'affection, des marques d'affection. Dodecha, tes marques d'affection, elles sont meilleures. Miyaim, que le vin. Rachidi Yaim. Ça symbolise toujours tout ce qu'il peut y avoir de meilleur pour moi dans ce qui est physique. Le vin. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose dont on goûte le goût, les possibilités. On va dire, c'est ce qui est le plus rapide pour l'homme d'avoir comme jouissance dans ce monde-ci. Alors, on appellera ça Yaïm. Quelqu'un qui verse dans le matériel, on dira Bayaïm. Parce que le prophète voudra dire que le peuple juif ne s'occupe que du matériel, il ira là, Bayaïm. C'est des gens qui sont dans le monde. C'est vrai, vous voyez, même aujourd'hui, encore au XXe siècle, le must du must de l'épicurien, de celui qui goûte, c'est d'avoir une cave où il s'est goûté le yaïm. D'abord parce que l'imbécile, il mange, il boit de la piquette. C'est-à-dire, il y a une fausse avant. Tovim dodecha miyaïm. D'après Rashi, la traduction est très simple. Lorsque Dieu nous a parlé, ça a bouleversé le monde entier. On se retrouvait plus. Le physique n'avait plus de place. C'est ça que le peuple juif a donné à Moshe Rabbeinu. Faut que toi tu continues parce que là on s'arrête. C'est que le Midrash dit qu'au moment où Dieu a parlé sur mon Sinaï, toute la terre a été changée. Il est marqué Oplo Parar, il y a plus un oiseau qui passe. Si pour le tiet, ils ont oublié de chanter, de gazouiller en Dieu. L'eau s'est arrêtée de couler. Dieu, lorsqu'il apparaît dans la nature n'a plus de raison. Elle n'est plus organisée, elle ne marche plus. Parce que les lois immuables de la nature ne sont là que pour nous masquer la présence. Si Dieu apparaissait dans la nature, à travers les lois de la nature, nous n'aurions plus de choix. Le choix que nous avons vient du fait que la nature est tellement bien organisée que toute présence divine est masquée par des lois naturelles. Je pourrais toujours dire, c'est la nature. C'est le voile qui a été mis entre Dieu. Si c'est pas ça, on serait tous des croyants absolus. On va essayer d'expliquer pourquoi. Vous savez qu'il y a, le monde a été créé, par 10 paroles. Et la Torah a été donnée par 10 commandements. Quelle est la différence entre une parole et un commandement? La parole, c'est une volonté divine qui s'exprime sans la participation de l'homme. Dieu a parlé. Tu reçois ou tu ne reçois pas? D'abord, l'homme n'était même pas là pendant les 9 premières. Ce qui est écrit en dernier. Ça veut dire que dans la nature, on va voir la volonté de Dieu que le monde soit d'une façon inexorable. Tu n'as aucune participation, tu ne peux rien échanger, tu es obligé d'être soumis. Dans les 10 brotes, on dit le daber, c'est s'adresser à quelqu'un, c'est pas parler, c'est dire. Les Aseret HaDibrot, ce sont des choix. La Torah, c'est ton choix. C'est aussi la volonté de Dieu. Mais tu n'y accéderas à cette volonté que si tu le veux en faisant ce que la mitzvah t'ordonne. Voilà la différence. Une, c'est ma liberté, et l'autre, c'est ma prudence. Je suis obligé de respirer. J'ai le cœur qui n'est pas assez fort. Ça ne marche plus. Il y a des lois de la nature. La Torah, c'est l'expression de la volonté divine à travers mon choix. Je le fais ou je ne le fais pas. Les deux sont l'expression de la volonté divine. Une par la force, une par la demande, par le conseil. Ce qu'on appelle nous une mitzvah, un commandement. Je suis libre de faire ou de ne pas faire. La mitzvah me donne la liberté. Le vaïe d'Aber, le dibour me donne la liberté. Mais le mahamar, il m'enlève tout qu'il a fait. Il y a deux façons pour Dieu de s'exprimer dans ce monde-ci. Ou on me demande la liberté, ou on m'enlève la liberté. Bah, Sarah Mamarot, c'est en m'enlevant toute liberté. Bah, Sereta Dibrot, c'est en me donnant une multitude de libertés. On est d'accord? Isha keini min shikot diou. Lorsque Dieu s'adresse, on n'a plus toute cette nature qui est là pour nous le cacher. Kitovim donecha. Parce que le fait de ressortir le bienfait de la bouche de Dieu, c'est mieux que Yaïn, c'est mieux que tout ce que je trouverai dans la nature qui pourrait me contenter. Parce que au Yaïm, je suis soumis. C'est une réaction chimique. On peut même calculer par ordinateur le goût que tel et tel trouvera à ce vin-là. Peut-être qu'un jour, on se branchera sur l'ordinateur et les aliments auront un goût et on en prendra une quantité selon ce que l'ordinateur nous dira. Tout calculé. On donnera un papier. Qu'est-ce que tu aimes ? Exactement ce sens. C'est-à-dire qu'on est emprisonné par le fait que le matériel, on a une relation avec lui, qui est une relation de volonté divine, de interréaction. Donc le pshat d'après Rachid. Ishakini Minchikotu. Je regrette le contact direct que j'avais avec Dieu. Bien que je ne me retrouve pas dans la nature. C'est pour ça que le peuple juif a dit, ben, Moshe Rabbeinu prend la relève parce que sinon on va y rester. Il a dit on va tous mourir là. On n'arrive plus à se repérer. Parce qu'on a besoin d'être enfermé dans des repères pour pouvoir s'y retrouver. Et si moi j'étais avec le monde toute la journée, je ne m'en sortirais plus. comme on a besoin de ça. Mais il en reste que je le regrette parce que tout il me donnera ce que Dieu me donne de lui-même. Ça a un autre goût que ce que je retrouverai moi. Ça, c'est le sens littéral d'après une version d'Ordinage. Deuxième sens, Kirachira. Ishakini Minchikot Piu, ça, ça ne change pas. Dieu a donné les deux premiers commandements. Si jamais il avait pu continuer à donner toute la Torah comme ça. Et on va voir pourquoi. Pourquoi ce besoin de retrouver cet instant-là. Kitovim Dodecha, attention. Car son meilleur Dodecha. Dod veut dire en même temps le bienfait tel qu'on le fait. Et veut dire aussi quelqu'un qui est proche de moi, qui est du meilleur, du bien avec moi. Ça que, par familiarité en hébreu moderne, tout oncle, on l'appelle Dod. Pourquoi ? Parce que c'est comme en français, un copain, on dit oncle. Mais en vérité, Dod, c'est l'ami. Dod, c'est l'ami. Kitovim Dodecha, attention. Les Chachamim, lorsqu'ils parlent, c'est ça les amis, l'homme, dans son interprétation de la Torah, Dodecha, c'est ça les amis de Dieu. Miyain, c'est meilleur que la Torah elle-même. Donc on va apprendre ça dans le verset. Ishakini Minchikot Piu. Si jamais il avait été possible que Dieu nous donne la Torah lui-même. Qui dovin dodecha miyain? Parce que lorsque c'est les Chachamim qui s'adressent, c'est quand même mieux que ce qui est écrit. Alors imagine-toi si c'était le bon Dieu lui-même qui venait et qui nous expliquait. Là, j'ai dit, de ce verset-là, tu vois que les Chachamim ont plus d'importance que ce qui est écrit dans la Torah. Et il y a une vingtaine d'exemples, je vais vous en faire grâce de pas mal. Un des exemples les plus frappants est celui-ci. Les Chachamim ont le pas sur la Torah. Les Chachamim peuvent annuler les mitzvot. Ils ont ce pouvoir-là. Yesh, koach, veyad, Chachamim, la'akor, davar, d'accord. Les Chachamim ont la force de déraciner une chose de la Torah. Il existe une discussion dans le traité de Yovavot. Est-ce que c'est seulement de m'enlever une mitzvah positive ou même de m'enlever une mitzvah négative? Enlever les mitzvot positives, tout le monde sait que les Chachamim ont la force. La preuve, c'est que si le premier jour de Rosh Hashanah tombe à Shabbat, on ne sonnera pas le shofar, bien que ce soit une mitzvah de la Torah. Si le premier jour de Sukkot tombe à Shabbat, on ne prendra pas le lulav, bien que ce soit une mitzvah de la Torah. Chachamim on dit non. C'est incompatible avec le Shabbat. Laisse tomber. Mais quelquefois, ça peut aller beaucoup plus loin. Je vais vous donner deux cas où ça va plus loin, hein, où on dit que Yeshkor vel Chachamim, l'accord, a fini de couver, c'est même contre. Il y a des cas où un homme donne un acte de divorce à sa femme qui n'est pas valable selon la Torah. Les Chachamim disent que le divorce est prononcé. Cette femme-là peut se remarier. Les prochains enfants ne seront pas considérés comme mamzer, alors que d'après la Torah, ils sont mamzer. C'est appliqué de nos jours. Encore un cas, ça vous fait rebondir. Est-ce qu'on peut convertir un enfant d'après la Torah? Non. Qui a décidé qu'un enfant peut le convertir d'après la Torah? Les Chachamim, ils ont été au cœur d'Avar et la Torah. D'après la Torah, c'est un goy. C'est les Chachamim qui ont fait le goy. C'est pour ça que les Juifs libéraux, il devrait avoir une grande estime pour les Chachamim. Parce que ce sont les seuls qui arrivent à convertir à l'encontre de la Torah. C'est très fin. Parce que tout le cheval de bataille du judaïsme libéral, c'est quoi ? c'est de convertir contre la Doge. Aujourd'hui, on convertit des enfants. Et ils ne sont pas juifs d'après la Torah, c'est les Chachamim qui ont décidé son nom. Ça s'appelle Yesh Koach Be'al Chachamim. Les Chachamim ont la force, la accord d'avoir mis la force. Encore l'autre exemple. Celui qui dit que des tfilines, vous savez qu'il y a quatre parachutes dans les tfilines. Quatre. Ni 3, ni 5, 4. Celui qui dit que les tefillines, il faut mettre 5 parachutes. Il va être original, il va mettre 5 parachutes de tefillines. Et tout à fait. Il transgresse une interdiction de la Torah Baal Tosif. Il n'a pas le droit de rajouter. Vous pouvez chercher dans toute la Torah, il n'y a pas marqué qu'il faut 4 parachutes. D'après la Torah, il n'y a pas de Baal Tosif, c'est vrai. Seulement en référence au Mahat. Les Chachamim ont une force. Pire que ça. Ils ont la force d'annuler un mariage. Quelqu'un vient à la choule, il fait un mariage. Les Chachamim peuvent venir le lendemain matin, ils disent mariage, t'as dit zéro. C'est pour ça qu'au moment du mariage, on dit Ariad Mekoudé Chetli, que Dat Moshe veut Israël. Dat Moshe, c'est la Torah orale. Israël, qui tovim dodecha miyai. Je veux dire pire que ça encore. La Torah écrite sans l'interprétation des Chachamim, c'est un livre mort inexistant. Pire, on nous l'a déjà pris depuis longtemps de toute façon. La force de la Torah, ce sont les Chachamim. C'est les seuls qui peuvent interpréter les choses. C'est pour ça que certains juifs, lorsqu'ils vous disent ça, je le fais parce que c'est de la Torah. Mais ça, c'est les rabbins. Ce sont les mêmes juifs qui vous disent mais il faut réunir un Sanhédrin aujourd'hui pour rénover. Mais si les rabbins se réunissaient, tu diras encore c'est les rabbins. Alors ça sert à quoi? Pourquoi? Parce que tu dénigres l'homme par rapport à la loi. Nous on a dit Emet Meretz Tzitzmar. C'est plus le bon Dieu qui fait la Torah, c'est l'homme. C'est Chachamim. Ça veut dire ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. C'est au jour, au moment de la création du monde, ça s'est passé. Les anges sont venus, ils ont dit mais l'homme n'arrive pas à la vérité. Ils ont dit bon ben, je vais jeter la vérité par terre et maintenant c'est l'homme de décider la vérité. C'est les Chachamim, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour l'instant, ils n'ont jamais exagéré. La preuve, c'est qu'on prie toujours le Shabbat et pas dimanche. C'est que les choses principales n'ont pas encore changé. Mais yesh kor ben rachem akhon. Mais non, c'est pas dans tous les cas. Ils sont aussi un petit peu bouclés. Mais au moins, on peut comprendre le pshat en verset. Ki tovim dodecha. Ce que les Chachamim ont interprété de la Torah, c'est 100 fois meilleur que Yahim, que la Torah elle-même. Alors imagine-toi ce que c'est si ce n'était pas Moshe Rabbeinu qui avait transmis la Torah. C'était pour lui-même. Le peuple juif a toujours son regret là. Pourquoi le bon Dieu lui-même n'a pas commenté la Torah? Pourquoi c'est pas de lui? Qui te dit que ça aurait été mieux au contraire? Il t'a tout écrit. Et puis maintenant, tiens-toi à ta disposition. Je vais t'en donner la preuve. Kitovim, Dodecha, Yahim. Une parole de la bouche de Chachamim, ça donne un sens. La Torah, elle n'a pas de sens. C'est un livre fermé. Je vais vous donner une preuve. C'est un livre fermé totalement. Tout celui qui fait référence à la Torah écrite, c'est qu'il a un intérêt derrière la tête. Il a dû avoir des ennuis avec la Torah. Je vous dis pourquoi. Vous savez que il y a toute une institution chez nous qui s'appelle la Kashrut. Quoi, la cachette? C'est qu'il y a des lois à respecter qui concernent l'alimentation. Une de ces premières lois, ça concerne la consommation d'un animal, la façon dont il faut le tuer, la façon dont il faut le consommer. On est d'accord? Si vous regardez dans la Torah, marqué Vezavarta, tu tueras l'animal. Comment? C'est pas marqué. Kacher tzidikra, comme je t'ai ordonné. Rachid ajoute le mot chez le Sinaï. On n'a aucune des lois de la Shrita et de la Kashrut qui soit précisée, on parle des lois importantes, dans la Torah. C'est les Rachaïm qui sont venus interpréter. C'est Moshe au Sinaï. Ils vont alors depuis Moshe au Sinaï. Sauf que si tu lis, tu lis comme je te l'ai ordonné. Le type qui dit, une page, tu recherches toutes les pages, c'est jamais ordonné. Il y a un problème. Ah, il y en a qui comptent sur le problème, il y a eu deux auteurs. Et on a perdu la première version du premier auteur. Bon, c'est une version qu'on appelle originale. Mais nous, qui pensons que la Torah elle est toujours la même que celle qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, on voit d'ici que la Torah écrite sans la Torah orale, elle n'a aucun intérêt. Ça veut dire que la première rencontre de l'homme avec HaKadosh Baruch Hu, ça m'a donné la faiblesse de la Torah. Faiblesse corrigée en partie par la force qui a été donnée au peuple juif d'interpréter et de recevoir, de maître à élève, ou d'élève à maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu, la Torah. Lorsque le monde s'adresse, si on était resté avec ça, tout oral, et que ça vient du bon Dieu. C'était le plus du plus. On n'était pas capable. Donc on a dit à Moshe. Donc tout va passer par Moshe. Tu vois que c'est quand même mieux qu'on a dit de passer par Moshe plutôt que tout écrit. Parce que tout écrit, c'est le démon. Qui te vit, le verra. Si aujourd'hui on disait, voilà, il y a le gant de Vilna qui va venir à Paris. Et dimanche prochain, 16h30, vous pourrez écouter une conférence. Tout Paris sera. Normal. Là, on dirait, non, le gars ne vient pas plus venir, mais c'est Maïmonide qui vient. Ben, c'est pas tout Paris, c'est le monde entier. Alors, on n'ose même pas parler de Moshe Rabbeinu. Alors, imaginez que ce soit le bon Dieu. Comment tu le sais? Imagine-toi que ça, le gars de Vina qui vient, c'est déjà pas mal. Le Rambam encore mieux, Moshe Rabbeinu, c'est déjà pas mal. Tu vois bien que le sens de tes vichus. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une relation qui passe par l'homme, pas par le texte. Le texte, c'est bien. Le texte, on peut en faire ce qu'on veut. Le texte, il est perdu. Les Chachamim, c'est eux qui doivent transmettre. Et c'est par eux que la Torah passe. Et là, il n'y a pas de casse de Chachamim. Tout celui qui veut, il s'appelle un Chacham. Il suffit d'étudier. À partir de ce moment-là, on arrive à la compréhension des choses, parce qu'il existe de nouveau un type de relation spirituelle. La relation que j'ai avec le texte, c'est une relation de mort. Le texte, il est mort. Il est tenu une fois pour toutes. On va dire pire que ça. Imaginez-vous, vous avez écrit un jour un texte. Il y a des gens qui, d'abord, ils n'arrivent même plus à se relire. Ça, c'est le pire du pire. Mais même celui qui arrive à se relire, la plupart d'entre eux n'arrivent pas à comprendre exactement quelles ont été les idées qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a mis le texte par écrit, il avait plein d'idées qu'il était sûr qu'il faisait passer, mais qui faisaient partie des idées. Et lorsqu'elles sont oubliées, il y a toute une partie du texte qui est morte. Celui qui arrive à bien rendre ses idées, c'est celui qui arrive par le texte à rendre tout ce qu'il a dans la tête. Mais c'est impossible. On perd toujours en français. En parlant, parce que peut-être que l'élève va comprendre nettement plus de choses que ce que j'ai compris moi-même lorsque je lui ai dit mon idée. Mais lorsque j'ai écrit, il y a tout de suite une déclaration. Moi déjà j'ai perdu. Alors l'autre, c'est sûr qu'il va perdre. Quand tu vas écrire tout ce que tu penses, c'est impossible. Il y a une déperdition obligatoire en parlant d'écriture. C'est pour ça qu'il a été interdit d'écrire la Torah orale. La Torah écrite, c'est la référence. C'est le monde des questions. Qu'est-ce qu'elle veut répondre? La réponse est maintenant. pour ça qu'il est écrit dans la Mishnah, dans le Kiddushin. L'Okarat Hashem Brit in Israël et la Torah Shabbat. L'alliance qui a été scellée par l'intermédiaire de la Torah, de quelle Torah on parle? La Torah orale, pas la Torah écrite. La Torah écrite, c'est le monde de Kiddushin. La Torah orale, c'est le monde de Kiddushin. Si tu ne sais pas qui a marqué qui a le Shabbat, tu ne peux pas avoir de référence dans la Torah orale. Une fois que tu sais, tu peux étudier la Torah écrite autant que tu veux, tu ne sauras jamais comment on fait le Shabbat. C'est vrai que l'autre garde toujours, mais c'est un Shabbat rabbinique. Toujours être réduit. Il en reste que je n'ai aucun sens du Shabbat. Et tout le monde a besoin de la Torah orale. Je vous dis, imaginez-vous un juif sans kippa. C'est pas marqué dans la Torah. Imaginez un juif sans tefilin. C'est pas marqué dans la Torah. Imaginez un juif sans talit. Donc il n'existe qu'un judaïsme rabbinique, il n'y en a pas d'autre. Parce que les références les plus faciles, les plus normales, c'est les chachamim. Dans la Torah, il n'y a pas marqué comment vous vérifiez. Ben, imaginez-vous qu'il y en a un qui laisse pendouiller 3 fils verts et l'autre 18 fils rouges. Il n'y a plus de 6 fils. À la fin, il n'y aura plus rien qui reste. On arrive à perpétuer une idée lorsque la loi elle est tellement fixe qu'on ne puisse jamais s'écarter de cette loi. Sinon l'idée qui est dans la loi, elle ne peut pas se perpétuer. Maintenant je me dis simplement, sache, il y a des tzitzit. Pose-toi la question, comment on fait les tzitzit? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces tzitzit? Qu'est-ce que c'est que ces tzitzit? Mais on n'aura jamais la réponse. Je vous pose un problème très simple. Un problème halakhique simple. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi je ne porte pas le chaman. Donc je mets le talit en dessous de mon vêtement. Il y en a qui mettent le talit katan, c'est encore mieux. Lors du Shabbat, parce que le jour il peut le mettre. Mais il y a un tzitzit qui a été coupé. Il n'y a plus que 3. C'est sûr qu'il est mauvais. D'après le Shulchan Aruch, on ne peut pas le mettre. Si tu le mets le Shabbat, ça s'appelle porter. Parce que tu portes un habit qui n'a plus rien à voir avec celui qui est légal. Mais comme c'est Shabbat, on ne va pas lui faire les tzitzit le Shabbat, puisque faire des tzitzit, c'est nouer. Et c'est un travail interdit le Shabbat, de nouer en forme de tzitzit. Donc comme je ne peux pas le faire, je ne suis pas tout, je suis acquitté de cette mitzvah. Donc il reste qu'un tzitzit avec croix, il est bon le Shabbat. C'est machloket. Entre deux balais à Tosfot. Un, il s'appelle Rabbi Shlomo de Troyes, c'est pas Rachid. Il y avait un des balais à Tosfot qui s'appelait Rabbi Shlomo de Troyes. Et un deuxième qui s'appelle Rabbi Tzak, mais Orléans. Marqué Orléans dans les textes, mais c'est Orléans. Celui qui a un talit de Soula, qui a un titre, qui est pas bon. Est-ce qu'il a le droit de mettre le Shabbat? Quelle est la discussion? La discussion est très simple. Est-ce qu'en me disant de mettre des tzitzit, on m'interdit de mettre un beged avec 4 coins sans tzitzit. Il n'y a pas d'interdiction de mettre un beged de 4 coins sans tzitzit. Il y a une besoin de les mettre. C'est-à-dire, c'est seulement positif, c'est pas négatif. Si c'est seulement positif, comme je ne peux pas le faire aujourd'hui, ben je peux pas le faire. Si c'est aussi négatif, c'est-à-dire, puisque tu as l'idée de le faire, donc tu as l'interdiction de le faire autrement, je ne peux pas le faire. C'est ça que c'est. On peut écrire un livre entier sur le sujet. Est-ce que chaque mitzvah positive, elle contient l'interdiction du négatif? Ou l'interdiction du négatif, ça n'est que parce que tu n'as pas fait le positif. Vous comprenez? Je n'ai pas mangé pendant ce coup. Je ne me suis pas assis dans la soukha. Je n'ai rien fait pas. Et si je mangeais en dehors de la soukha, j'ai fait quelque chose. quelque chose de mal. Donc il y a du négatif, il n'y a pas son but. Quoi ? C'est un sujet sur lequel il y a de quoi débattre dans les chaudites, dans les chronos, dans les choses qui mangent pas là-haut. Jusqu'à ce qu'on peut arriver à une certitude à la fin. C'est qu'il y a oui l'interdiction. Chaque mitzvah positive, à partir du moment où elle est de faire, et qu'il y a une deuxième manière de faire, la deuxième manière devient une interdiction. Mais chaque mitzvah positive, où il n'y a pas une deuxième manière de faire, il y a seulement ou faire ou ne pas faire. Ne pas faire n'est pas une interdiction. Je ne suis pas allé écouter le chauffard, je n'ai pas fait d'interdiction. Je n'ai pas fait de mitzvah, je n'ai pas fait. Mais lorsqu'il y a une manière de faire, un habit avec quatre points, avec des titres, et le même habit sans titre, à ce moment-là, il y a une interdiction aussi dans la mitzvah. Philosophiquement, c'est tout un problème. En quoi le négatif est contenu dans le positif? Et en quoi, dans ce qui est positif, le manquement du positif peut s'appeler négatif? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de neutre. Ça aussi, c'est un problème. C'est vrai que dans la Torah, il y a rarement neutre. Il y a peu de choses qui sont ni interdites, ni mitzvah. Normalement, si ce n'est pas interdit, c'est que c'est mitzvah. Mais même ça, je ne suis pas sûr. Venez, on va essayer de réfléchir. Il y a une contradiction. Si je vole, je suis allé à l'encontre d'un ordre de la Torah. Je fais ce qu'on appelle un avéra, une transgression. Mais si je ne vole pas, ben j'ai fait une mitzvah, c'est que je n'ai pas volé. Parce qu'il y a marqué tu ne voleras point, c'est ce que j'ai fait. Dans chaque mitzvah négative, le positif, c'est aussi une mitzvah. Tu ne tueras point. J'ai pas tué. D'accord. C'est sûr que c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui passent devant les sociétés générales tous les lundis matin, et une fois sur deux, ils font un braquage. Moi, j'ai jamais fait. Donc, j'ai accompli le commandement de la Torah, le Tignov, le Tirtsar, le Tanebracha et Chaker. J'ai fait plein de choses. En ne faisant pas ce braquage-là. D'accord. J'ai pas mangé quelque chose d'interdit. J'ai fait une mitzvah. De ne pas manger ça. Mais non, j'ai pas fait une mitzvah de manger mon petit pain. On est d'accord? On va aller plus loin. Est-ce que toute chose doit être permise dans la Torah et sinon elle est interdite? Parce qu'il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de neutre ou négatif ou positif. Ou toute chose qui n'est pas interdite est permise. Je vais dire tout de suite, la vérité elle est très simple. C'est sûr que je n'ai pas besoin de permission pour toute chose. Tout ce qui n'est pas interdit c'est permis. La preuve, c'est qu'on respire tous sans autorisation d'apport. On marche tous sans autorisation d'apport. Donc moutard permis, on devrait dire que c'est neutre. On est d'accord? Non, c'est pas neutre. Je vais vous dire quelle est la différence, savoir une chose. Il y a une discussion entre le Ramban Nachmanide et les Tosafot dans le traité de Bava. Vous savez qu'une chose interdite qui s'est mélangée avec des choses permises, tout devient permis. On a une loi, on va l'appeler majorité. J'ai une casserole. Il y a quelque chose d'interdit qui est tombé dans la casserole, qui s'est mélangé. Si la majorité est permise, c'est permis. On n'est pas ça à la lettre, on n'est pas en train de parler maintenant d'Alaha. Il y a encore d'autres conditions. Ça s'appelle Bitul le Rov. Le Rov, ça veut dire on va l'après la majorité. Pourquoi on va l'après la majorité? C'est que c'est pas vrai. Tu vas manger toute ta casserole. Fatalement, tu as mangé ce qui était interdit. Une fois, j'ai entendu la route, le père, c'est qu'on va dire. Il m'a posé cette question. Je Je dis parce que la Torah, elle est obligée de dire ce qu'il faut faire. On ne peut pas rester toujours dans le doute. C'est tombé, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu fais rien. Ah non. Dis-moi où c'est permis, c'est interdit. Bah, dis, tu as raison. Mais pourquoi c'est permis? On n'avait qu'à dire c'est interdit. Parce qu'il y a une interdiction dedans. Il a répondu, il m'a dit, si c'était interdit, c'est qu'on serait allé après la minorité. Il n'y a aucune raison pour que la minorité donne sa droit à la majorité. Donc comme on est obligé de décider, on est obligé d'apprendre. Donc, ça devient interdit. Ce qu'on appelle l'Europe. D'accord? Mais on va demander le contraire. Quelque chose de permis est tombé dans quelque chose d'interdit. Est-ce que ça devient interdit? Ou ça reste permis? Là va intervenir notre problème. Si la permission c'est indigne de la Torah, alors il va prendre le digne de la majorité. Mais si la permission c'est pas indigne de la Torah, on va pas la prendre la majorité, c'est pas indigne de la Torah. Dans une réalité, on peut pas aller dans le digne de Mitou, puisque le digne de Mitou, c'est une décision de dire, c'est une décision de fonctionner dans la vie. Mais c'est pas une réalité. Je vais vous donner un exemple. Il y a une tshuva d'un sefer qui s'appelle le Onegelton. Il pose la question sur celle-ci. Vous savez que les tzitzit doivent être tviya, je ne sais pas comment on appelle tviya en français, c'est baptisé, c'est le fait de tordre le fil, torse à dénouer comme vous voulez. La tviya doit être pelishma, c'est-à-dire le shem tzitzit, pour la mitzvah de tzitzit. Je ne peux pas prendre n'importe quelle ville, là, chez un commerce et faire des tzitzit. Il faut que ce soit fait depuis le commencement, ce qui a marqué vaasu lahem tzitzit. Ils feront des tzitzit. Donc la asiya, la fabrication, doit être faite en but de faire des tzitzit. Vous savez qu'il y a 4 fils dans chaque tzitzit. Quand on fait en 2, 8. Il y a un fil qui n'a pas été fait pour les tzitzit. Il s'est mélangé avec un autre. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Normalement on dit, d'après la majorité, il dit si, il dit non. Il dit pourquoi? Parce que les 3 fils, ils ont ce qu'on appelle une mala. Ils ont quelque chose de plus. Ils ont été faits pour les tzitzit. Celui-ci, il lui manque la mala du pour. C'est pas parce que tu l'annules que ça va devenir pour. C'est une réalité. Tu peux pas l'annuler. Tu peux annuler une interdiction, mais tu peux pas annuler une réalité. Vous comprenez? D'après ça, si je dis que ce qui est permis, c'est une réalité, c'est pas une permission de la Torah, on n'annulera jamais ce qui est permis. On a fait perdre pour un Habib à peu près 2 millions par an. Pour comme ça. Je vous dis pourquoi. Vous allez voir comment pratiquement on va retrouver un problème qui est. On va vous dire, mais c'est un problème philosophique de. Non. Vous savez que le vin, pour qu'il soit caché, doit être fabriqué par un juif. Il y a des vins où il y a des mélanges de vin et d'eau. On est d'accord? J'ai pris une coupe d'eau. Et il y a du vin qui s'est mélangé. Et on fait couler le vin peu à peu. Pour qu'il prenne, il imprègne l'eau de son goût. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui trafiquent et qui mettent carrément l'eau dans le vin. Et il y a de plus en plus de vin. Et il y a un moment où il y a majorité de vin, donc ça va s'appeler du vin. Il n'y a pas d'interdiction ici, c'est éther de éther. Si je dis qu'il y a un digne qu'on l'a pris la majorité, c'est du vin. Si le goy continue à le fabriquer, toute la cuve est fichue. Si je dis qu'on ne va pas l'après la majorité, c'est de l'eau. Si le goy continue à toucher, c'est pour rien. Vous comprenez? Vous allez dire, mais jusque-là, on doit. Tout ce qui n'a pas une législation qui va jusqu'au bout des choses. Parce que si le vin doit être comme ci et comme ça, et comme ça c'est bon et comme ça c'est bon, tout est bon, il n'y a plus de définition de vin. Donc on a déjà annulé le vin à cacher, à pas cacher. Si les tzitzit, je vais demander au rabbin, alors, il y a un fil qui n'a pas été fait pour les tzitzit. Est-ce que comme il s'est mélangé, on va l'après la majorité ou non? Il dit, mon fils, c'est pas grave, c'est pas important. Il n'y a plus de tzitzit. Parce que maintenant, c'est le fil blanc, après c'est le fil bleu, après c'est le fil rouge, après on va mettre du plastique. puis après ça devient comme Escovido, chacun a une autre couleur et puis on en met plus. Pourquoi? Parce que ça n'a plus de valeur. La valeur, elle est lorsqu'on est arrivé à déterminer la loi jusqu'au bout. Et qu'on s'y tient jusqu'au bout, au bout. À partir de ce moment-là, les choses prennent une valeur. Si je ne suis pas arrivé à déterminer ce que la Torah veut, je suis fichu. Tout ça, c'est des choses qui se discutent. Dans les Chachamim, qui sont marqués dans la Torah, on parle des propres inversés, de l'autre verset. Ça, c'est vous dire quoi? Lorsqu'il y a marqué ici, Tovim Dodecha Miyaim, les paroles des Chachamim sont plus importantes pour nous que les paroles de la Torah elle-même. C'est pas pour dire qu'on fait les malades, et nous, on a plus de valeur que la Torah. C'est pour dire que la compréhension des choses, l'analyse des choses, ce sont des choses qui ne peuvent pas être écrites jusqu'au dernier. Ce sont des idées qui doivent se transmettre et qui ne peuvent pas être codifiées dans la Torah. Parce que s'il fallait codifier ça dans la Torah, ce serait pas 5 livres et un rouleau, ce serait la bibliothèque nationale. Parce qu'il n'y a pas de limite aux idées. Et un jour, il faut décider. Et comme c'est l'homme qui décide. C'est selon les époques. La lacha, elle change selon les époques. Ça dépend de la majorité des chachamim. Vous pouvez dire, c'est comme ça dans les traditions. Qui tovim do dechamim? Si c'était le bon Dieu qui m'expliquait tout, j'aurais une compréhension tellement folle des choses. Alors que maintenant on a des écrits. Qui te dit que c'est comme ça? Qui tovim do dechamim? Parce que tu vois bien que moi, avec mon pauvre écrit, la seule chose que je peux retenir, c'est les références dans les idées que les Chachamim donnent, qu'ils ont reçues depuis Moshé jusqu'au Sinaï. Et ça, ça passe par l'homme. Ça passe pas par l'homme. Vous comprenez? Donc là, on peut comprendre un petit peu le verset.